Moi, c'est l'efficacité et la nécessité. Ça, ça me semble très net, je dois dire. Caractère impératif de la colombe. La colombe, c'est la douceur. La douceur. La douceur, la ferveur, la fécondité. Le point de vue de l'aigle, c'est aussi la force, un aigle. C'est la jalousie, le zèle. Et puis l'altitude, hein. L'aigle, c'est celui qui monte très haut. Qui monte très haut. Le regard d'aigle. C'est le regard d'aigle. C'est le regard. Le regard d'altitude. Celui qui aime un regard très profond, parce qu'il s'élève. Quand vous êtes à l'horizon de la mer, vous ne voyez rien du tout, c'est une terrible opacité. Quand vous vous montez, vous avez un regard en profondeur. Alors c'est exactement ce qui se passe, au fond, pour nous. Quand nous regardons sans nous aimer, on n'approfondit pas. Tandis que dès qu'on aime, on approfondit. On voit tout de suite un regard en profondeur. Donc ça, c'est le regard de l'air. L'aigle, c'est le point de vue de la jalousie et ce regard en profondeur, c'est ça. Et le souffle, alors on peut dire le souffle, c'est la véhémence. La véhémence, la force aussi. Presque la véhémence est mieux que la force, le souffle. Vous voyez, le souffle, c'est peut-être une véhémence extraordinaire. Prenez un cyclone. Un cyclone, c'est une force invraisemblable, je me souviens. Enfin, t'es passé près de la forêt de Compiègne à faire un cyclone. Et je connaissais celui qui s'occupait de la forêt, celui qui était là tout le temps, qui connaissait cette forêt merveilleusement. Et alors il m'a dit, je vais vous montrer les dégâts de ce cyclone qui avait eu lieu deux jours avant. Le cyclone avait arraché tous les chênes. Et on voyait la ligne. C'est extraordinaire pour ça. Une ligne, mais pas très large, si vous voulez. Le cyclone passe. La force d'un cyclone. Alors, ça, c'est la véhémence. Et en même temps, la souplesse. Le souffle, c'est très souple. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ça, c'est quelque chose d'une souplesse extraordinaire. Alors, le feu. Donc, vous avez là les qualités. Alors, ce serait intéressant, je ne veux pas le faire, mais ce serait intéressant de comprendre le langage symbolique et le langage de l'analyse philosophique. Il y a deux langages différents, deux manières différentes de s'exprimer. Alors, il ne faut pas mettre une adéquation exacte. Si on met une adéquation exacte, ça ne va pas du tout. Alors, vous pourriez ajouter d'autres symbolismes de l'Esprit Saint, de l'action de l'Esprit Saint. Ça, c'est les symbolismes de l'Esprit Saint. Et puis, il y a les symbolismes de l'action de l'Esprit Saint. Et selon l'Apocalypse, ce sont les esprits, les sept esprits de Dieu. Vous avez les sept esprits. Alors ça, c'est les effets. Les sept esprits de Dieu. Vous avez aussi le langage. L'Esprit Saint, c'est le tonnerre, c'est l'éclair, c'est la voix. Vous avez tout ça. Ça, c'est les effets. Les sept esprits. Alors, c'est les sept dons. Vous comprenez que les sept dons, ce n'est plus l'amour proprement dit. C'est l'amour dans l'homme. C'est pour ça que c'est intéressant de mettre toutes ces analyses sur des plans différents. Il faut bien les comprendre, sur des plans différents, ce n'est pas les mêmes plans. Parce que si vous mettez ce même plan, vous ne comprendrez plus rien du tout. Là, vous êtes dans l'analyse philosophique. Ici, vous avez les symbolismes par rapport à l'amour lui-même. Les cinq symbolismes, le feu, le souffle, l'air, la colombe, le loi de Dieu. Puis alors, vous avez les sept dons du Saint-Esprit. Les sept esprits du Saint-Esprit. Les sept esprits du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui nous est communiqué et qui nous transforme. Donc c'est l'homme lié à l'Esprit Saint, c'est nos vies. Les sept esprits. Alors vous voyez, voilà l'analyse de nos vies. L'analyse de nos vies, c'est les sept esprits de Dieu. C'est les sept dons du Saint-Esprit. Et c'est en même temps cette action qui nous est montrée dans l'Apocalypse, la voix. L'Esprit Saint, c'est la voix. L'Esprit Saint, c'est le tonnerre, et l'Esprit Saint, c'est l'éclair. De temps en temps, le Saint-Esprit, c'est le tonnerre. Hein. Ça, c'est violent. Alors, quand je regarde les dons du Saint-Esprit, je vois les sept effets de l'amour. Le don de sagesse, c'est la paix. L'amour unifie. Aimer la paix. Ça, c'est sûr. On devient pacifique quand on aime. Le don d'intelligence, c'est la limpidité. L'amour rend limpide. C'est la limpidité. La lucidité ou la limpidité. On peut y mettre la pureté. La limpidité. L'intelligence liée à l'amour, c'est cette limpidité du cœur. Le don de science ordonne. Le don de conseil, c'est la douceur et l'harmonie. Le don de piété, c'est la surabondance. La force, cette force, ça fortifie, c'est la force de conquête. C'est la force de conquête. Et la crainte, c'est l'effacement. Par amour, on laisse passer devant l'autre. Alors, vous voyez, la crainte, c'est la pauvreté. On va ajouter ici, au numéro 3, quand j'ai mis la pauvreté, il faut remettre l'effacement. L'amour me permet de m'effacer devant celui que j'aime. Numéro 3, parmi l'analyse que nous avons fait de l'amour volontaire, j'ai mis la surabondance et la pauvreté. Alors, je crois qu'on pourrait mettre ça. Ça nous aiderait à mieux comprendre, parce que la pauvreté, c'est quoi? C'est plutôt l'effacement et laisser passer devant. Quand on aime, on laisse passer devant. Il y a les deux aspects, la surabondance, qui est la miséricorde, et qui est la surabondance, et puis le point de vue de la pauvreté. Vous voyez, tout ça se tient, mais ce sont des aspects différents. Ce qui est tout à fait normal, parce que l'amour ne peut pas se dire, alors il se décrit. De multiples manières. Je crois qu'avec ça, vous pouvez avoir quand même à réfléchir. Comme dit Heidegger, vous avez là une matière à penser. Vous avez là à quelque chose à penser. C'est vrai, c'est une matière à penser. Parce que vous avez là quelque chose qui est quand même notre vie, ça. Et alors, avoir une âme qui a une lyre, comme dit l'Écriture. Notre âme devient une lyre sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, il y a la voix, il y a la souplesse de la voix. On est très, très, très rempli de l'Esprit Saint. Il y a l'huile aussi. L'huile exprime l'action de l'Esprit Saint. C'est l'huile qui descend de la barre d'Aaron, vous savez. C'est l'huile, c'est merveilleux. Alors ça, c'est la souplesse. La souplesse et l'harmonie. Parce que l'huile, c'est pour justement maintenir le corps en souplesse. Les athlètes qui se huilent les membres pour avoir une souplesse plus grande. Voilà. Et quand vous êtes fatigué, faire couler de l'huile sur votre barbe, c'est merveilleux. Et surtout, c'est le couper. Et ça donne la souplesse. Et l'Esprit Saint, c'est ça, c'est l'huile. Alors, c'est l'action de l'Esprit Saint sur la créature. Ça fait partie des sept dons du Saint-Esprit. Bon, y a-t-il des questions là-dessus? Parce qu'on est bien obligé de clôturer ça. Mais je voulais vous donner ce petit tableau, parce que ça me semble très intéressant, très important de réfléchir là-dessus. Je vais maintenant, si vous voulez, parce qu'il faut autant que possible répondre au programme. Alors, je vous ai mis, après le point de vue de l'amour d'amitié, le point de vue de la contemplation. Vous comprenez que quand je compare l'amour d'amitié et la contemplation, je vois bien qu'il y a une double finalité dans l'homme. Alors, il y a tout le problème de la finalité. Il faudrait évidemment traiter ici. Je n'en dis qu'un seul mot, parce que c'est important pour nous. Et je terminerai sur le problème de la personne. Je commencerai ce soir, on terminera demain peut-être. Bon. Et s'il reste du temps, je demanderai au docteur Lamarche de nous parler de certains aspects de la psychologie de l'homme et de la femme. Au point de vue passionnel, au point de vue psychique, ce qu'on avait dit à propos des patients, l'expérience qu'il peut avoir au point de vue psychologique. Ça peut être intéressant de voir ça. Alors, nous allons essayer de comprendre maintenant les deux finalités de l'homme. Oui. Après avoir vu ce que c'est que l'amour d'amitié, après avoir vu ce que c'est que la contemplation, je vois qu'il y a deux finalités de l'esprit humain, c'est-à-dire l'esprit lié au corps, lié à la chair. Deux finalités. Première finalité, l'amour d'amitié, où je me finalise par la personne humaine. La personne humaine est capable de me finaliser, d'être mon bien. C'est ça qui est très beau. Je peux finaliser un être humain, mais je ne le finalise jamais totalement. L'être humain n'est jamais totalement finalisé par une personne humaine. Donc, l'autre n'est jamais un complément absolu. Alors, c'est là où il serait très intéressant de regarder la diversité de cette finalité et la diversité de la complémentarité dans notre amitié. Alors, on verrait les divers types d'amitié. Il y a une amitié homme et femme. Le mariage. La femme est avant tout complémentaire de l'homme du côté du cœur. C'est propre de la femme. C'est d'être complémentaire du cœur de l'homme. Elle est médiatrice dans l'ordre de l'amour. Je sais qu'aujourd'hui, on veut dire « Oh non, pas du tout, c'est pas ça. Elle doit être complémentaire du côté de l'intelligence, elle doit être complémentaire du côté... » Selon la vision, je crois, dans un réalisme le plus fort, il faut toujours dire, il y a toujours des exceptions. Il y a des femmes génies. Souvent, elles n'arrivent pas à se marier, c'est très curieux. Et elles aiment mieux de ne pas se marier, parce que c'est évident. Elles sont géniales. Du côté de l'intelligence, du côté artistique, la femme, normalement, est complémentaire de l'homme. Remarquez que du côté de l'homme aussi, quand l'homme est génial, quelquefois, c'est pas commode pour lui se marier. Faites attention quand vous vous marierez avec un génie. Faites attention. C'est très, très difficile de se marier avec un génie. Mariez-vous avec un homme, mais pas avec un génie. Mais tu vois, c'est mieux. Je dis ça, c'est mieux. Parce que si on se marie avec un génie, on cherche la gloire du génie. Hein? Et alors, ça va pas toujours très bien. Bon, alors, il y a l'amitié de l'homme avec l'homme, l'amitié de la femme et la femme. C'est très vrai, ça. Amitié de complémentarité, amitié de plus de similitude. Ça, c'est le très très gros problème qui a toujours secoué les philosophes. Est-ce que l'amitié de complémentarité est plus parfaite que l'amitié de similitude? Mais je crois que c'est un faux problème. Il faut dire qu'il y a deux types d'amitié, tout simplement. Il y a l'amitié de complémentarité et l'amitié de similitude. Et je crois que l'une n'exclut jamais l'autre. L'amitié de similitude, c'est par exemple l'homme qui, le philosophe, qui aimera de trouver un autre philosophe. Il y aura une complémentarité et une similitude, et la similitude sera première dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre mathématique, dans l'ordre artistique, dans l'ordre de la sensibilité, similitude. De même pour la femme. Alors, d'une certaine manière, dans l'ordre de la similitude, vous voyez, l'unité est plus parfaite. C'est pour ça que Platon opte pour l'amitié de similitude. Parce que l'unité est plus parfaite. Mais l'unité n'est pas l'amour. L'unité est une conséquence de l'amour. L'amour lui-même peut-être s'épanouit plus dans la complémentarité. Comme amour. L'unité est moins parfaite, c'est vrai, dans la complémentarité, l'unité est moins parfaite. Mais il y a peut-être dans la complémentarité une possibilité plus grande, vous voyez, de don. Et donc l'amour est plus parfait, parce que l'amour est le don personnel. Et c'est dans le don personnel que l'amour pourra se réaliser plus parfaitement. Et donc, je crois que l'amour de complémentarité est un amour qui, de fait, va permettre un don plus total, un don plus absolu,
dans l'ordre de l'amour.
Mais l'amour de similitude permet peut-être, du côté de l'intelligence, du côté de l'art, vous voyez, quelque chose de plus parfait. C'est très curieux, ça. Ça, ce serait étudié. C'est intéressant à voir. Bon, ça n'a pas été tellement étudié au point de vue philosophique. Aristote donne simplement quelques petits principes. Il donne les trois types d'amitié. Vous savez, il fait une chose très, très, très curieuse dans l'éthique. Je peux vous le donner maintenant tout de suite à titre de recherche. Là aussi, c'est intéressant à creuser plus quand il dit que l'amitié de complémentarité peut se comprendre de diverses manières. Il y a l'homme et la femme. Il y a l'homme et la femme, il y a le père et le fils, ou la mère et le fils, peu importe, les parents, et les enfants, entre eux. L'amitié à l'intérieur de la famille. C'est évident qu'il y a trois types d'amitié dans la famille. Il y a la première amitié qui est le fondement de toute la famille, l'homme et la femme. Il y a la seconde amitié qui est les parents à l'égard des enfants. Et la troisième amitié, c'est l'amitié entre les enfants. Parce qu'il y a trois types d'amitié. C'est la richesse de l'amitié. Trois types d'amitié. Et alors Aristote fait ce petit parallélisme très amusant, qui est une espèce d'analogie, en disant l'amitié entre l'homme et la femme est analogue au plan politique, au régime aristocratique. L'amitié entre le père, les parents et les enfants est analogue au régime monarchique. Et l'amitié entre les enfants est analogue au régime républicain. Oui. Il y a quelque chose, hein, il ne faut pas trop pousser, c'est une analogie qui donne. Donc c'est de montrer qu'il y a quelque chose de semblable. Mais étant donné que la famille et la communauté politique implique des parallélismes, que le propre d'une communauté politique, c'est de maintenir une amitié entre les citoyens, une concorde, que les citoyens puissent s'aimer, que les citoyens puissent s'entendre, qu'il puisse y avoir entre les citoyens comme une entente profonde, vous voyez. Alors il y a des types différents, et il est évident qu'une forme, les trois formes politiques qu'Aristote prend, n'est-ce pas, qui sont classiques du reste. Alors il faudrait voir les formes inverses. Hein. La destruction du régime monarchique, c'est la tyrannie. La destruction du régime aristocratique, c'est l'oligarchie. C'est-à-dire que c'est la fortune. C'est la fortune. Et la destruction du régime démocratique, c'est le point de vue de la démologie. Alors il y a des choses, donc il y a six formes de régime, si vous voulez. Et au fond, six formes de régime, n'oublions pas, hein, c'est une analyse qui fait. Donc, elle n'existe jamais à l'état pur. Ce qui existe, c'est toujours le mixte. Donc c'est une alliance entre le régime monarchique, le régime aristocratique et le régime républicain. C'est ça l'idéal. L'idéal, c'est pas du tout comme on l'a dit, Aristote dit que l'idéal, c'est le régime monarchique. Non. Pour Aristote, l'idéal, c'est le mixte. Le mixte est toujours plus parfait que le simple. Ça, c'est la grande idée qu'il a. Le mixte est toujours plus parfait. Donc, ce n'est pas du tout le régime monarchique qui est le plus parfait. C'est l'alliance des trois régimes. Aristocratie, monarchie, républicain. Et parallèlement à ces trois, alors, il y a la destruction. Alors, évidemment, on pourrait avoir le mixte imparfait qui serait l'alliance des trois du côté négatif. Une tyrannie impliquant une oligarchie et impliquant une démagogie. Ça, c'est... Alors, cherchez où ça se trouve. Et verrez le point de vue de la destruction la plus grande de l'État. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir tout simplement qu'Aristote a très bien compris. Aristote est le premier philosophe de la famille. Ça, il faut bien le dire. C'est le premier philosophe qui a construit la famille et qui s'est mis sur une amitié. Pour Platon, ça n'existe pas l'amitié entre l'homme et la femme. Ça ne peut pas exister. Alors pour Platon, la politique repose sur les individus et non pas sur la famille. Tandis que dans la vision aristotélicienne, et je crois que ça c'est le réalisme d'Aristote, la politique repose sur la famille, parce que la famille c'est le lieu, voyez, de ce tissu très particulier de relations d'amitié. Donc vous mettez les parents ici. Les parents, les enfants. C'est un tissu particulier. D'ailleurs. Et alors, que cette amitié-là commence celle-ci, et que celle-là commence celle-là. Il est évident que si les parents ne s'aiment pas, l'amitié entre les parents et les enfants n'existera pas. Et que si l'amitié entre les parents et les enfants n'existera pas, sera très difficile de faire naître l'amitié entre les enfants. Pour lui, il y a une dépendance. C'est donc l'amitié de l'homme et de la femme dans le mariage qui va être source de toutes les autres amitiés. C'est une vision qui est très originale vu le temps d'Aristote. En faisant ça, Aristote est très révolutionnaire, si vous voulez, par rapport à son époque. Il est très révolutionnaire parce qu'il montre qu'entre l'homme et la femme, il y a une véritable amitié. Donc il y a un choix libre d'amitié. Alors que de son temps, le mariage se faisait par les parents. Et donc arriver à montrer qu'il y a un véritable choix entre les parents, c'est quand même très important, que c'est la cellule profonde de ce que représente le point de vue de la communauté politique. Bon. Alors, dernier aspect qui nous reste à traiter, c'est le problème de la personne. Parce que, un mot avant, donc, ces deux finalités, finalité de l'amitié, est ordonnée à l'autre finalité qui est la contemplation. Donc il y a deux finalités qui regardent l'autre, la personne humaine et la personne divine. Nous pouvons maintenant essayer de réfléchir sur ce que représente le problème de la personne humaine. Nous nous découvrons progressivement dans notre personnalité. Nous mettons du temps. Je crois qu'une personne humaine se découvre à partir de la finalité. Et pas avant. C'est l'ami qui éclaire son ami sur sa dignité personnelle. Parce qu'il y a cette responsabilité de l'ami à l'égard de son ami. Dans ce sens-là que l'ami est le miroir qui révèle à l'ami ce qu'il est. C'est l'ami qui aide l'ami de pouvoir s'épanouir comme une personne humaine avec sa propre indépendance, sa propre autonomie, si vous voulez. Alors, il y a tout un problème qui est très important, surtout aujourd'hui, le problème de la personne humaine. Alors, si vous voulez, ce sera le dernier problème que nous allons traiter au plan philosophique. Oui, tout ça se tient. Parce que la finalité, la personne humaine se donne à l'intérieur de cette finalité. Alors, il serait intéressant ici de poser le problème de la personne humaine. Bien comprendre que ce problème a pris une très grande importance depuis peut-être, je ne sais pas, il faudrait mettre 60 ans, 60 ans, point de vue philosophique, à peu près. À peu près 60 ans. Chez les Grecs, dans la philosophie grecque, le mot personne, vous savez bien, au point de départ, signifie prosopone, ça signifie le masque. La personne, c'est le masque. Ça ne veut pas dire, comme dit saint Thomas, ça ne veut pas dire que dans la philosophie d'Aristote et dans la philosophie de Platon, la réalité de la personne ne soit pas regardée. Mais le mot n'y est pas. C'est toujours intéressant de voir la naissance d'un mot au point de vue philosophique. Le mot n'y était pas, puisque le mot « personne » était uniquement pour, dans le jeu dramatique, le masque. Et on voit très bien, le masque vous permettait de jouer un rôle. Donc vous jouiez un rôle avec le masque. Et vous représentiez cette personne. C'était donc dans l'ordre, si vous voulez, de la représentation de la personne. On jouait un rôle et le masque indiquait cela. Le masque permettait d'atteindre, vous savez bien, ça permettait à la voix de s'étendre beaucoup plus loin, et puis en même temps, ça représentait. Ça représentait le point de vue de ce que représentait tel rôle, on jouait tel rôle, tel. Le mot personne n'apparaît en philosophie grecque qu'avec les stoïciens. C'est les stoïciens pour les premiers qui parlent de la personne. C'est assez curieux. Alors, voyez bien, les stoïciens sont la philosophie qui va être en pleine force, de moins en pleine force. Ce qui est le plus spirituel chez les stoïciens va apparaître à Rome en l'an 50 après Jésus-Christ avec Épictète. Épictète, c'est l'esclave devenu philosophe. Épictète a un sens extraordinaire de l'intériorité de la personne. Et pour lui, l'intériorité de la personne, c'est capital. Épictète dit au sénateur romain, vous croyez être libre et vous dépendez de vos électeurs. C'est une vérité qui reste toujours vraie. Vous croyez être libre et vous dépendez de vos électeurs. Et donc, vous n'êtes pas libre. Vous n'avez aucune liberté intérieure. Vous êtes complètement dépendant. C'est très beau de rappeler ça. Celui qui est esclave, il sait ce que c'est d'être esclave. Il sait ce que c'est que d'être la liberté du philosophe. Il distingue l'homme intérieur et l'homme extérieur. Vous voyez, les distinctions que nous retrouvons dans Saint Paul, on les trouve dans Épictète. Il y a un parallélisme très étonnant entre les deux. Alors, c'est pas vu tout à fait de la même façon, c'est bien évident, parce que saint Paul le voit dans la lumière du Christ, mais Épictète le voit, lui, du côté philosophique. C'est pour ça que la philosophie stoïcienne a joué un rôle si important dans le premier christianisme. Et le premier théologien stoïcien, il ne faut jamais l'oublier, c'est Philon. Donc, Philon, qui est un juif, qui est resté dans sa foi d'Israël, d'israélite juif, Philon s'est servi de la philosophie grecque. C'est lui qui a fait le lien entre toute la révélation révélation judaïque et le point de vue de la philosophie grecque, Philon. Philon a été rejeté de ses compatriotes, ses coreligionnaires juifs, et il a été reçu par les chrétiens. Philon a joué un très grand rôle, et actuellement, le père Danielou avait mis très en lumière le rôle de Philon. C'est un peu de ce, mais c'est un peu à la mode aujourd'hui de redéterrer Philon, montrer l'importance de Philon sur toute la première génération des pères de l'Église, et de montrer que de fait, il y a eu, sur cette première génération des pères de l'Église, une très grosse influence stoïcienne. C'est le stoïcisme qui a été le premier assumé par la foi chrétienne. D'abord par la foi israélite, puis la foi chrétienne. Puis ensuite, ça a été le néoplatonisme. Puis ensuite Platon, puis ensuite Aristote. C'est très curieux de voir comment progressivement il s'est fait cette alliance de la foi chrétienne et de la pensée grecque. Peut être pour ou contre, hein, ça dépend des moments. Aujourd'hui, on est plutôt contre, mais moi, je suis plutôt pour. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de très beau de voir que le génie sémite, qui était le soubassement de la foi n'est pas liée à un génie, hein. La foi, elle est quelque chose de divin. Mais elle a un soubassement. Elle a un soubassement de culture. C'est très beau de voir comment la foi et la foi plénière dans la foi chrétienne, va pouvoir assumer toute une culture différente. Du reste, si on est attentif à l'histoire du peuple d'Israël, on voit très bien que le peuple d'Israël n'a cessé d'assumer toutes les grandes cultures. Voyez Moïse, toute la culture égyptienne. a été assumée. Donc il ne faut pas du tout... C'est la position d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est des petits vivants, alors on a très peur, alors on est des clôtures, alors on veut la mesure. Alors que le grand vivant assimile tout. Il assimile tout. Partout, il y a quelque chose d'intéressant, je l'assimile. C'est ça, enfin, l'important, c'est humain. C'est l'humain. Alors, la philosophie stoïcienne, il ne faut pas l'oublier, à cause de la personne. La philosophie stoïcienne a été la première à découvrir donc ce que représente la personne avec sa responsabilité et sa liberté intérieure. La philosophie stoïcienne est la première aussi à reconnaître le point de vue du citoyen universel. C'est la première internationale. Le stoïcien, c'est la première internationale. C'est le premier qui reconnaît qu'il n'y a plus la distinction entre le grec et le barbare. Parce que les grecs étaient farouches en disant tout ce qui n'est pas grec est barbare. Hein. Tandis que les stoïciens ne considèrent pas ça du tout. Ils regardent l'homme. Ça, c'est la grandeur du stoïcisme. Il y a d'autres aspects qui sont plus petits. Mais ça, c'est la grandeur du stoïcisme. Alors, c'est intéressant de voir que la découverte de la personne va en même temps avec la découverte du dépassement de ce que représente telle culture particulière. Dès qu'on découvre la personne, on découvre une espèce d'autonomie profonde qui fait qu'on est au-delà de certaines limites de culture. La personne émerge la culture, hein, pour dire ça. Ça émerge. C'est le fruit d'une culture, mais c'est plus grand qu'une culture. Je ne peux pas enfermer une personne dans une culture. C'est très important pour les problèmes d'aujourd'hui, vous voyez, parce qu'on a une tentation d'opposer les cultures aujourd'hui. La culture asiatique, la culture européenne, la culture sémite, la culture naturelle. Attention, il y a l'homme qui est le fait, lui, qui est à la source de toutes ces cultures. Et donc, il ne faut pas opposer les cultures, il faut essayer au contraire de comprendre ce que chacune de ces cultures permet à l'homme d'être une véritable personne. La culture est pour la personne, et non pas la personne pour la culture. Encore de nouveau, le sabbat est-il pour l'homme ou l'homme est-il pour le sabbat? Vous retrouvez toujours la même chose. La culture est un fruit de relations humaines. Tu resterais complexe, ça, parce que c'est une culture. Mais c'est le fruit. C'est l'homme qui est la source de la culture. Et la culture est pour l'homme, pour permettre à l'homme d'être parfaitement lui-même. Or, le point de vue de la personne représente le nœud le plus profond de l'homme dans son développement. Bon, alors, le mot « personne » a existé chez les stoïciens. Le mot « personne » s'est beaucoup, beaucoup développé chez les pères de l'Église et chez les théologiens. Alors, on peut dire qu'au cœur de toute la théologie de saint Thomas, il y a toute une vision théologique de la personne. Et vous comprenez très bien que ce problème de la personne s'est très développé chez les théologiens, à cause du mystère de la très sainte Trinité. Comment pouvons-nous comprendre l'unité de nature, l'unité d'être et de vie, et trois personnes? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, personne et unité d'être? Alors, il a fallu essayer de comprendre. Le mystère de l'incarnation, le Verbe de Dieu qui assume la nature humaine. Deux natures dans une personne. C'est juste inverse. Bon, vous avez ça, si vous voulez. C'est intéressant, parce que c'est là, on voit très bien l'effort du théologien dans le mystère de la très sainte Trinité. Vous avez une nature divine. Qu'est-ce que c'est que la nature divine? Trois personnes. Quand il s'agit du mystère de l'incarnation, vous avez deux natures, nature divine, nature humaine, et une personne, le Verbe. Vous avez juste un Verbe. Alors il s'agit de comprendre les rapports entre nature et personne. Et toute la grande théologie du Moyen-Âge a essayé de comprendre comment on peut saisir nature et personne. Qu'est-ce que ça veut dire la nature? Qu'est-ce que ça veut dire l'essence? Qu'est-ce que ça veut dire la personne? Et là, il s'est développé. Là, on peut dire que dans, chez un Thomas, il y a toute une réflexion. C'est peut-être ce qui est le plus original dans un Thomas. Il y a le traité des passions, nous l'avons vu. Mais il y a quelque chose de plus original encore, au point de vue philosophique et théologique, c'est les relations entre la nature et la personne. Ça, c'est tout l'effort de saint Thomas, ça, c'est très très net. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une personne divine, qu'est-ce que c'est que la personne humaine. Parce que, en face de cela, il faudra comprendre ce que c'est que la personne humaine. Alors, vous comprenez, en face de la personne humaine, vous comprenez. Vous voyez tout de suite le problème. Le péché originel affecte la nature et il y a le péché personnel. Tout de suite, une distinction entre la nature et la personne. Vous avez un péché personnel qui est le péché originel et puis vous avez des péchés personnels. Le péché personnel regarde le point de vue de, implique le point de vue de la liberté. Tandis que le péché de la nature n'implique pas la liberté. Et alors là encore, rapport entre la nature et la personne. Comprendre comment dans le Christ il y a deux natures, la nature humaine. La nature humaine dans le Christ a été formée en Marie comme une nature individuelle. Le Christ implique une nature individuelle et cette nature individuelle est assumée par le Verbe. Vous voyez ? Donc, on voit comment toute la théologie va impliquer de plus en plus cette réflexion sur le point de vue de la nature et de la personne. Ça revient tout le temps, à tous les niveaux. Saint Thomas va développer tout le point de vue de la personne par le point de vue du marbre. Et ce sera toute sa morale. La morale de Saint Thomas est une morale personnaliste. C'est bien évident. C'est pas une morale collective. Pour Saint Thomas, il n'y a pas de péché collectif. Il y a une morale, c'est une morale de la personne. La morale est responsable de ses actes. Elle a le dominium sur ses actes. Donc elle a cette possibilité-là. Alors, l'image, comprenons bien, l'image qui sera la personne humaine, l'image aura trois dimensions. Et alors là, c'est toute la grande tradition augustinienne, puisque c'est saint Augustin aujourd'hui, il faut bien en dire un mot, la grande tradition augustinienne qui regardera l'image de Dieu qui est dans l'homme avec trois dimensions. Quelles sont ces trois dimensions pour saint Augustin? La mémoire, l'intelligence et l'amour. Voilà les trois dimensions. Donc la personne humaine implique trois dimensions. Pourquoi? Parce qu'elle est créée à l'image de la très sainte Trinité. Et donc elle implique trois dimensions, la mémoire, l'intelligence et l'amour. La mémoire au sens augustinien, c'est ce qui correspond dans la Bible avec le fait que Dieu a créé l'homme à son image en lui donnant un pouvoir de domination sur l'univers. C'est ça la mémoire, c'est le pouvoir de domination. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux pas dire mémoire, mais dire tout simplement le dominium. L'homme a un pouvoir de domination. Un pouvoir de domination de transformer l'univers. Il a un pouvoir de domination sur les petites bêtes, sur les grosses bêtes et les petites bêtes. Tu vois, quand vous avez des insectes qui vous dérangent la nuit, dans les rives qui sont chauds, n'oubliez pas que vous avez un pouvoir de domination sur les insectes. Vous n'avez qu'à leur demander de se taire et l'insecte obéira. N'est-ce pas? Parce que vous avez un pouvoir de domination sur l'insecte. Un pouvoir de domination sur ce que représente l'univers. La mémoire. Vous avez une capacité d'intelligence et une capacité d'amour. Donc il y a les trois grandes dimensions qui sont créées à l'image de Dieu. Et toute la morale de saint Thomas implique une morale de l'image de Dieu, parce que c'est la morale d'un théologien. L'homme est responsable de lui-même, de l'univers et des autres. Il y a une triple responsabilité. Il est responsable de l'univers, parce que l'univers a été remis à l'homme. Il a été remis à l'homme pour l'homme. C'est pas l'homme qui est pour l'univers, mais c'est l'univers qui est pour l'homme. Alors l'homme est capable de transformer l'univers. Alors évidemment, vous voyez, pour saint Thomas, les problèmes ne se posaient pas tout à fait de la même manière que pour nous. Parce que la transformation de l'univers, pour nous, se fait d'une manière très intense. Et c'est pour ça que si on continue
la réflexion de saint Thomas, on doit toujours se demander si lorsque nous dominons l'univers, nous coopérons avec l'univers ou si nous l'exploitons. Ça, c'est le gros problème. Pose-moi ici.
Bon, alors, on peut dire qu'avec les théologiens du Moyen-Âge, et ceci a duré jusqu'au 18e, 19e siècle. La grande période des théologiens, il faut bien voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La théologie s'est amenuisée avec la base scolastique. Ça, c'est sûr. Et alors, on voit que la philosophie a pris une importance toujours plus grande. Dans la mesure où les théologiens ont été moins vigoureux, la philosophie a pris une importance de plus en plus grande. Descartes a voulu redonner à la philosophie son autonomie. On ne peut pas dire que chez Descartes, il y a un problème de la personne. Non, je ne crois pas. Au sens propre, il y a un problème de la substance pensante, qui est au fond la personne. Pour Descartes, la substance pensante, c'est la personne. Mais on ne peut pas dire que le problème de la personne a tracassé Descartes. Le problème de la personne est revenu très en lumière avec la phénoménologie moderne, Max Scheler. Ça, c'est sûr. Alors, le problème de la personne a repris un plan très important. Et en France, on peut dire qu'avec Mounier et Martin, le problème de la personne a repris philosophiquement une importance énorme. Mais c'est aussi du côté des psychologues que le problème de la personne a pris une importance très grande. Alors si vous voulez, avant d'entrer proprement au plan philosophique sur le problème de la personne, un mot sur ce que représente au point de vue psychologique la réflexion sur la personne, et un mot sur Maritain. Intéressant, parce que Maritain est un thomiste. Alors c'est intéressant de poser le problème de Maritain, même si on n'est pas entièrement d'accord, ça n'a pas d'importance. Alors, je prends ici un psychologue, parce qu'on ne peut pas regarder tous les psychologues. Je prends un psychologue que je crois être un de ceux qui a montré le mieux ce que représente la genèse de la personnalité. Comment la personnalité se construit. J'ai beaucoup réfléchi, ça m'intéresse beaucoup, alors je vous donne la réflexion, ce n'est pas entièrement ce qu'il dit, je complète, mais la structure est la même. Il prend le moi personnel, on comprend, point de vue psychologique, la personne c'est le moi personnel, et c'est même les sentiments du moi. Sentiment du moi, ce qu'il faut bien comprendre, ce que ça représente, sentiment du moi. Au niveau psychologique. Et alors Charles Audier dit que la personne humaine, la personnalité, les sentiments du moi fort impliquent trois dimensions. Le sentiment de sécurité, le sentiment d'autonomie et le sentiment de valorisation. Je crois qu'il y a là quelque chose de très intéressant. C'est au niveau psychologique, hein, je ne suis pas au niveau philosophique, je suis au niveau psychologique. La construction, la structure du moi fort, des sentiments du moi personnel. Il a trois dimensions, la sécurité, l'autonomie, la valorisation. Bon, je réfléchis un peu sur ce que ça représente. Ça. Vous voyez que le sentiment d'autonomie, c'est dans le présent. Le sentiment de sécurité, c'est par rapport au futur. Le sentiment de valorisation, c'est par rapport au passé. Ça, je crois qu'on peut facilement comprendre ça. Sûr que par rapport au présent, j'ai le sentiment d'une autonomie. J'ai un sentiment d'autonomie, ça fait partie de ma personnalité. Une personnalité implique une certaine autonomie. Je suis une personne dans la mesure où j'ai une certaine autonomie. Puis, je suis une personne dans la mesure où j'ai une certaine sécurité. Si je n'ai aucune sécurité, ça ne va pas. Et j'ai une certaine valorisation. Alors, vous comprenez que ces trois sentiments sont des conquêtes sur les trois grandes lézardes qui sont en nous. Contre l'autonomie, c'est l'aliénation. d'un lézard de l'aliénation. Contre la sécurité, c'est l'angoisse. Et contre la valorisation, la culpabilité. C'est très curieux, ces choses-là, vous voyez. Et ce serait très intéressant de regarder les concupiscences. Le fondement des trois concupiscences. Ça ne le fait pas, du tout. Moi, je dis ça ici. Parce que de fait, il y a trois grands lézards dans l'humain. Vous voyez que, qu'est-ce qui empêche notre personnalité de pouvoir prendre des actes où on est responsable, notre responsabilité plénière? C'est les lézards psychologiques. Alors, il y a trois grands lézards. Par rapport au futur, l'angoisse. Quand quelqu'un est angoissé, il ne vit pas demain. Ça augmente l'angoisse. Parce que justement, celui qui est angoissé ne peut pas regarder demain. Il est angoissé par rapport au demain, par rapport au futur. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui est l'aliénation, c'est par rapport au présent. On est aliéné en fonction du milieu dans lequel on est. Le milieu devient insupportable. Vous savez, quand on est insupportable, ce milieu est effrayant, je ne peux plus supporter. Il m'aliène. Je suis limité par ce milieu. Alors, il y a le milieu extérieur, l'eau vive dans laquelle nous vivons. Je ne sais pas, c'est le milieu. Ça. Alors, le milieu est plus ou moins grand, parce que c'est la communauté, il y a à l'intérieur des communautés, diverses communautés. Et puis, il y a un milieu interne. Ça, c'est bien évident. Toute notre psychie, c'est notre milieu dans lequel nous vivons. Nous savons très bien. Nous dépendons de notre corps. Nous dépendons de notre corps. Quand nous avons un corps qui est fatigué, ben c'est un milieu qui nous aliène. Ça, c'est évident. Qui nous arrête, qui nous empêche. Si je pouvais pas être fatigué, je suis fatigué. Si je pouvais pas avoir mal, je pourrais faire telle ou telle chose. Vous voyez ? C'est quelque chose qui nous arrête. L'aliénation dans le sens de ce qui nous arrête, ce qui nous limite, ce qui met en nous, en pleine lumière, nos limites. Hein. C'est nos limites, ça. Et la culpabilité, au niveau pas moral, la culpabilité psychologique, c'est par rapport au passé. Nous avons tout raté dans le passé. Alors ça met une culpabilité. Oui. Et nous projetons ça sur le futur en disant, si nous avons tout raté dans le passé, nous avons toujours tout raté. Quelqu'un qui est très pris par la culpabilité psychologique fait que, nécessairement, tout doit rater. On lui met une assiette en main, il lâche et elle casse. Parce que jusque-là, il a toujours cassé ses assiettes. Alors ça ne peut pas être autrement. Il y a une espèce de...